VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a démenti ce mercredi les allégations d'un lanceur d'alerte selon lesquelles ses employés auraient falsifié le registre de maintenance de son Boeing 737 MAX qui s'est écrasé en mars, provoquant la mort de ses 157 occupants. Depuis l'accident, les Boeing 737 MAX sont cloués au sol à travers le monde. De nombreux rapports mettant en cause une défaillance du système anti-décrochage de l'appareil qui l'a fait piquer du nez et s'écraser au sol. Le même système avait été mis en cause dans le crash d'un autre Boeing 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air en octobre 2018, catastrophe qui avait fait 189 morts. Le lanceur d'alerte, un ancien ingénieur en chef d'Ethiopian Airlines, qui a demandé l'asile aux États-Unis, a évoqué des pratiques de maintenance douteuses ainsi que de nombreux cas de corruption au sein de la compagnie aérienne dans un article de l'agence de presse américaine Associated Press publié mardi. Réaction d'Ethiopian Airlines, et je cite, « L'allégation selon laquelle les notes des pilotes et des techniciens ont été modifiées est complètement fausse », a souligné la compagnie aérienne en qualifiant son ancien ingénieur en chef d'employé mécontent. Ebola en République démocratique du Congo maintenant, 3 laboratoires de dépistage du virus Ebola affrétés par les fondations Mérieux et Presence quittent la France ce mercredi à destination de la RDC. Plus précisément Goma, chef-lieu du Nord Kivu, province de l'Est du pays qui est l'épicentre de l'épidémie de fièvre hémorragique en cours. Ces laboratoires vont renforcer les mesures sur le terrain pour contenir la maladie. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Les deux fondations ont affrété un avion Antonov 124 qui transportera jusqu'à Goma deux laboratoires conteneurs prêts à l'emploi, un de type P3 et l'autre de type P2 et un laboratoire mobile installé dans un véhicule 4x4 ainsi qu'un conteneur frigorifique. C'est un enjeu de santé publique, a rappelé le fondateur du groupe pharmaceutique du même nom, Alain Mérieux, qui dit avoir répondu à une demande officielle du gouvernement par la personne du professeur Mouyembe chargé de la lutte contre Ebola. Ces laboratoires vont apporter une sécurité biologique beaucoup plus grande, a insisté M. Mérieux, rappelant que la RDC est un pays immense où le seul laboratoire P3 est à Kinshasa. Ces laboratoires conteneurs pourront ainsi diagnostiquer entre 180 et 200 prélèvements par jour, a assuré le directeur diagnostique et système de la Fondation Mérieux, le Dr François-Xavier Babin. L'Ebola a fait plus de 2100 morts en RDC depuis la déclaration officielle de l'épidémie. Le 1er août 2018.
En République centrafricaine voisine, les jeunes du quartier de PK5 à Bangui, un secteur de la capitale longtemps stigmatisé, déterminés à prendre en main leur propre destin. Ces jeunes ont créé une organisation appelée Cercle de la jeunesse islamique centrafricaine pour le développement. Objectif, promouvoir la cohésion sociale et les travaux communautaires par le biais notamment de réunions de sensibilisation visant à améliorer le quotidien des habitants de ce quartier qui compte un fort pourcentage de musulmans. Pascal Serra nous amène à la rencontre des jeunes en question.
Le quartier du kilomètre 5 à Bangui, ses monuments, ses boutiques, ses commerçants et sa jeunesse qui s'active afin de contribuer au retour d'une paix durable entre les communautés.
Chacun de nous maîtrise son équipe déjà.
Ici, les crises politico-militaires ont laissé des empreintes qui ont favorisé la marginalisation et l'enclavement de toute une population. Une situation que des jeunes volontaires ont décidé de changer.
Je suis le président des CRJ4, c'est une organisation de la jeunesse musulmane centrafricaine qui évolue beaucoup plus dans le cadre de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et chaque année, nous inscrivons beaucoup plus les enfants démunis à l'école et de contribuer aussi à leur éducation, de les appuyer avec les fournitures scolaires. Nous sommes aussi dans la formation aussi, formation d'entrepreneuriat, pour que demain, ils deviennent responsables d'eux-mêmes de créer des entreprises pour développer les pays, parce que c'est la pauvreté là vraiment qui pousse les gens vraiment de faire n'importe quoi. Nous promouvons aussi beaucoup plus l'éducation des filles, parce que une fille, si elle est instruite, j'espère que c'est toute une nation qui est instruite.
À travers leur organisation, les jeunes, avec l'appui de quelques partenaires, organisent sans relâche des activités qui favorisent la cohésion sociale, le relèvement du système éducatif ou encore pour rendre effectives les campagnes de vaccination. Des actions qui portent des fruits.
À l'époque, si quelqu'un dit qu'il part au kilomètre 5, les gens croyaient qu'il part dans un couloir de la mort. Vous avez vu aujourd'hui, il y a retour des activités, il y a la calmie, les enfants aillent à l'école, nos mamans partent à l'hôpital, et les jeunes aussi exercent les activités. Vraiment, on a eu des résultats sur le terrain.
Volontaires, investis, engagés, les jeunes du kilomètre 5 espèrent que leur pays redeviendra un jour la vitrine de l'Afrique, un but qui sera atteint grâce à la contribution de tous.
C'était un reportage de Pascal Serra Bangui en République centrafricaine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, le régime du président Pierre Nkurunziza a montré pour la première fois depuis le début de la crise en avril 2015 quelques signes d'ouverture. D'après l'AFP, Bujumbura a commencé à discuter dans la plus grande discrétion avec la plateforme d'opposition Sénared, laquelle est affaiblie par une vague de défections. Après avoir refusé avec persistance pendant 4 ans de s'asseoir à la même table que le Sénared, même sous l'égide de la communauté internationale, le pouvoir burundais a finalement accueilli samedi le secrétaire exécutif de ce mouvement qui rassemble des opposants exilés en raison de la crise née de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé. Toujours selon l'AFP, une délégation du Sénared a aussi rencontré à Nairobi au Kenya des membres du pouvoir burundais, une équipe dirigée par l'ancien ministre de l'Intérieur Edouard Nduwimana, un proche du président Nkurunziza, le 30 août et le 1er septembre. Violence au Malawi, un petit état enclavé entre la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie en Afrique australe. Un policier a été lapidé à mort mardi dans une localité à l'ouest de la capitale lors d'affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants proches de l'opposition. Ces derniers tentaient d'empêcher la tenue d'une réunion publique du président Peter Mutharika. Les détails avec Bagassi Koura.
Les violences se sont produites dans la ville de Musungwe, à l'ouest de la capitale Lilongwe, rapporte le porte-parole de la police James Kadadzera. Le policier Ousmane Imedi a été lapidé à mort, a-t-il dit. C'est le deuxième policier tué depuis le début des manifestations au Malawi. La police a usé de gaz lacrymogène pour disperser des protestataires qui bloquaient une route pour empêcher des partisans du chef de l'État de se rendre à son rassemblement prévu à Lilongwe. Les manifestants ont riposté par des jets de pierre et ont tué un policier. La ville de Musungwe est l'un des bastions de l'opposition qui dénonce la réélection de Peter Mutharika en mai dernier. Il a été crédité de 38,57% des suffrages devant son adversaire Lazarus Chakwera, 35,41% des voix. L'opposition a déposé une requête en annulation du scrutin auprès de la justice qui doit se prononcer prochainement. Il y a 2 semaines, un opposant malawite a trouvé la mort en garde à vue à Karunga, une ville du Nord. Lors de sa réunion publique hier, la première depuis sa réélection, le président malawite a appelé à la fin des violences.
Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, un des 2 candidats au second tour de la présidentielle, Nabil Karoui, actuellement incarcéré pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, a déposé un recours en justice pour demander un report de ce scrutin prévu le 13 octobre. La justice tunisienne confirme avoir reçu sa requête mardi. Jacques Aristide.
Le recours a été déposé auprès du tribunal administratif qui n'a pas indiqué dans quel délai il pourrait y répondre. Pour Maître Nazis Oué, l'un des avocats du candidat Karoui, ce renvoi doit avoir lieu jusqu'à ce que son client soit libéré pour faire campagne. Le recours a fait valoir que l'égalité des chances n'est pas respectée entre les 2 candidats. Nabil Karoui, un homme d'affaires dont le parti fondé il y a 6 mois, serait arrivé second aux législatives de dimanche, d'après plusieurs garçon d'âge, est en prison depuis le 23 août dernier dans le cadre d'une enquête pour blanchiment. L'instance chargée des élections et de nombreux dirigeants politiques et des observateurs internationaux avaient déjà appelé à ce que Nabil Karoui puisse faire campagne de façon équitable. Le premier finaliste de la présidentielle, l'universitaire Kais Saïd, a déclaré samedi dernier qu'il cessait de faire campagne afin de respecter l'égalité des chances avec son adversaire en prison.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.